Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, bienvenue à tous, il est midi 31. Tout de suite, le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous reviendrons tout d'abord sur cette lettre aux Français rendue publique hier et dans laquelle Emmanuel Macron promet de tirer toutes les conclusions de la grande consultation inédite qui sera lancée à partir de demain. Il n'y aura pas de questions interdites, assure le chef de l'État, avant toutefois d'exclure d'ores et déjà de revenir sur les réformes votées sur la fiscalité.
Et puis invité du journal dans un peu moins de 10 minutes, Cyril Lage.
Il est le cofondateur de l'entreprise Cap Collectif, le prestataire en charge de mettre en place la plateforme numérique de ce grand débat national.
Césaré Baptiste. Expulsé hier de Bolivie, est arrivé ce matin en Italie.
L'ex-activiste d'extrême gauche, condamné pour sa participation à 4 meurtres, devrait y purger une peine de réclusion à perpétuité après des décennies de cavale.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rencontre aujourd'hui les dirigeants irakiens à Bagdad.
Près d'un mois après l'annonce surprise du retrait des troupes américaines de Syrie, la France entend ainsi afficher son soutien aux Irakiens et notamment faire passer le message qu'elle n'abandonnera pas la guerre contre le groupe État islamique. Enfin, c'est aujourd'hui le 8e anniversaire de la révolution de Jasmin à l'origine du printemps arabe. L'occasion de nous interroger qu'est-ce que cette révolution aura apporté ou non à la Tunisie. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
France Culture ouvre le débat. Journée spéciale sur notre antenne ouverte dès ce matin, dès 7h avec les matins de Guillaume Erner. On poursuit la discussion avec notre invitée, la politiste Agathe Cagey, et on va s'interroger sur la place des intellectuels dans ce grand débat. Doivent-ils faire entendre leur voix? Ce sera la question qu'on lui posera à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. En posant sur 5 pages, 4 grands thèmes et une trentaine de questions, Emmanuel Macron aurait-il fini par écrire hier soir l'acte fondateur de la nouvelle gouvernance qu'il avait promise? Quoi qu'il en soit, et même si sa missive n'est pas sans rappeler le plaidoyer épistolaire adressé 30 ans plus tôt par un certain François Mitterrand, voire le courrier programmatique diffusé par Nicolas Sarkozy, eh bien le chef de l'État entend désormais par cette lettre donc rien de moins que de proposer un nouveau contrat pour la nation. Alors sans doute les plus cyniques ou disons les plus réfractaires à toute parole venue d'en haut se demanderont-ils que ne l'avait-il fait depuis 18 mois? D'où cette question. Cette lettre censée répondre au mouvement des Gilets jaunes en promettant de transformer les colères en solutions parviendra a-t-elle à convaincre opposition et manifestants qui, pour une large partie d'entre eux, y voient surtout une manœuvre politique? Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Thomas.
Alors que demain sera donné le coup d'envoi donc du fameux grand débat national, cette lettre, au fond, résume bien à elle seule les limites de l'exercice. Tout d'abord, essayer de détourner les tirs contre l'exécutif. Ce débat ne devra être ni une élection, ni un référendum, conclut lui-même Emmanuel Macron dans sa lettre. Et puis, même si le président écrit qu'il ne doit pas y avoir de questions interdites, pas de tabou, il semble bien pour autant que certaines lignes rouges excluent d'ores et déjà tout détricotage.
Oui, tous les Français sont invités à débattre et à faire des propositions, dit Emmanuel Macron dans cette lettre, mais pas n'importe comment et pas sur n'importe quoi. Première limite à l'exercice, ça ne peut pas se faire dans la violence, ni pression, ni insulte, précise le chef de l'État en direction des élus, des médias, des institutions, des fonctionnaires. Autre préalable et autre limite, il n'est pas question de revenir sur les objectifs et les grandes orientations de sa politique mise en œuvre depuis un an et demi, à savoir que pour rendre à la France sa prospérité, il convient, selon le président, de donner les moyens aux entreprises de créer de l'emploi. Sous-entendez, il n'est pas question de les taxer davantage, bien au contraire, il faut continuer à alléger leurs contributions. Il est aussi nécessaire de rebâtir notre système d'éducation, notre système social et de repenser notre modèle de développement face au dérèglement climatique. Il s'agit donc pour Emmanuel Macron de conserver ses grandes orientations. Partant de là, le champ du débat doit, selon lui, s'organiser autour de 4 grandes thématiques. On en parle déjà depuis plusieurs jours. L'impôt et l'action publique, l'organisation de l'État et des collectivités, la transition énergétique et le renforcement de la démocratie et de la citoyenneté. Et si dans ce cadre préalablement fixé, on pourra officiellement parler de tout, Emmanuel Macron donne quand même quelques pistes, quelques orientations. Par exemple, quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires pour mettre en œuvre la baisse de la dépense publique? Ou encore, faut-il et dans quelle proportion limiter le nombre de parlementaires, faisant ainsi référence à la réforme des institutions déjà évoquée par le candidat Macron avant son élection? Voilà la difficulté et les limites de l'exercice auquel essaie de se livrer le chef de l'État, fixer le cadre d'un débat tout en donnant le sentiment que tout est ouvert.
Alors on le voit Stéphane, des doutes persistent donc sur la sincérité en somme du débat et sur la prise en compte à son issue des revendications, des positions exprimées, doutes alimentés d'ailleurs par cette nouvelle, puisqu'on l'a appris ce matin, le débat ne sera plus piloté par la Commission nationale du débat public.
Non, effectivement, la Commission nationale du débat public indique ce matin qu'elle ne prendra pas en charge l'organisation. Sa présidente, Chantal Joanneau, met en ligne son rapport ce matin sur les travaux préparatoires qu'elle a déjà menés, assortis d'un certain nombre de préconisations. Ce rapport déconseille notamment de fixer publiquement des lignes rouges à ne pas franchir avant d'engager ce débat. Et il encourage les autorités à s'engager au préalable sur la manière dont elles répondront à l'ensemble des attentes et des propositions. Mais la Commission nationale du débat public indique donc qu'elle n'organisera pas elle-même ce débat en raison du fait qu'elle n'a pas obtenu d'engagement de l'exécutif sur le fait qu'on lui confierait également le travail de synthèse et de restitution. Autrement dit, elle estime ne pas avoir suffisamment de garanties sur le fait que sa mission aurait été de bout en bout indépendante. Et du coup, on ne sait pas bien qui va jouer ce rôle. On a appris ce matin que deux secrétaires d'État, Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu, seraient chargés de coordonner l'action de la société civile d'un côté et des élus locaux de l'autre, notamment des maires, mais tout ça est encore très flou. Et puis, la question est, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Là, on n'a pas vraiment de réponse. Emmanuel Macron s'est juste engagé à en rendre compte auprès des Français dans le mois qui suivra la fin de la consultation.
Merci Stéphane Robert. Alors, tout au long de ces cinq pages, il est une expression qui n'apparaît pas, du moins formulée en ces termes, celle de pouvoir d'achat, ce qui au regard de la nature de la colère exprimée depuis bientôt deux mois par les Gilets jaunes peut sembler étrange. Quoi qu'il en soit, voilà qui nous amène donc à nous interroger à présent sur les questions économiques relatives à cette lettre. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Toute la première partie de ce courrier repose au fond sur l'explication du modèle français. Et là encore, même si Emmanuel Macron soulève un certain nombre de questions, les cadres qu'il dessine pour y répondre semblent extrêmement limités.
Oui, si cette lettre pose plusieurs questions cruciales sur la fiscalité, les services publics, les cotisations sociales également, bref, sur notre modèle social et la façon dont on peut continuer à le financer, plusieurs solutions sont d'ores et déjà écartées. Emmanuel Macron se dit ouvert à la discussion sur les impôts, mais il n'est pas question de revenir sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, pas plus que sur la suppression de l'ISF. Tout cela se justifie-t-il, est nécessaire pour que ceux qui ont de l'argent continuent d'investir en France et que le travail paye mieux. Bref, Emmanuel Macron continue de vanter le ruissellement parce que, dit-il entre les lignes, le Parlement vient de voter le budget 2019 et qu'il faut attendre les effets de la politique économique choisie. On s'y repenchera à la rigueur une fois ces effets analysés. Donc, augmentation des impôts sur les plus riches et sur les entreprises, il n'y aura pas. Des baisses d'impôts, en revanche, le président se dit ouvert à l'idée. Mais alors, il faudra baisser notre niveau de dépenses publiques, une nécessité qu'il met directement en lien avec l'autre nécessité, celle de revoir nos services publics actuels. Lesquels supprimer, lesquels créer, le cas échéant, comment les financer? Là encore, on le voit, le cadre est extrêmement resserré, c'est celui d'une baisse globale des dépenses publiques, accompagnée de cet argument qui n'est pas nouveau, qui est même celui avancé par tous les gouvernements depuis les années 90, faire mieux pour moins cher. Baisse de la dépense publique donc, et dans le même temps, il faut investir massivement, dit Emmanuel Macron, dans la transition écologique et de poser à nouveau la question: comment financer cette transition écologique? Par l'impôt? Par les taxes? Qui doit les payer? On voit poindre l'impasse, ne pas étouffer le pouvoir de consommer et le pouvoir d'investir sous l'impôt et pourtant garder l'impôt pour financer la transition écologique. Bref, les solutions proposées sur ces sujets devront être pour le moins créatives.
Merci Anne-Laure Chouin. Et puis toujours parmi les sujets de ce grand débat dont les conclusions coïncideront avec le lancement des élections européennes, on ajoutera qu'Emmanuel Macron a également choisi d'y inclure le thème de l'immigration en ouvrant par exemple la porte à l'instauration de quotas migratoires, mesure qui ne figurait pas dans son programme 2017. 12h40 sur France Culture, invité de ce journal, Cyril Lage, cofondateur de l'entreprise Cap Collectif. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le prestataire en charge de mettre en place la plateforme numérique de ce grand débat national et à mes côtés donc pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Cyril Lage, votre start-up avait organisé en décembre dernier la consultation du Conseil économique et social, une consultation pour prendre le pouls des citoyens face à la crise des Gilets jaunes. Et il se trouve que cette plateforme avait fini par être noyautée en quelque sorte par des réseaux militants, notamment la Manif pour tous. Quels enseignements en avez-vous tiré?
Alors, l'enseignement, on l'avait par avance, parce que c'est pas du tout une surprise pour nous. On sait que dès lors qu'on organise un process participatif, les groupes d'intérêt vont se mobiliser. Et on a pour habitude de dire à nos clients de ne pas s'en inquiéter, puisque, par exemple, la Manif pour tous, c'est une très bonne illustration. Tout le monde les connaît, tout le monde savent, avant qu'ils parlent, ce qu'ils vont dire. Nous, il nous semble qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de faire participer les gens mais pas uniquement. C'est de l'autre côté de faire la transparence de la parole de ceux qui parlent déjà aux décideurs politiques et qui le font de façon, si ce n'est opaque, au moins confidentielle. Et on plaide toujours pour l'unicité d'un dispositif et qu'il n'y ait pas une plateforme numérique pour les citoyens et éventuellement une voie royale pour les groupes d'intérêt. Et l'objectif de cette démarche avec le CESE était d'avoir un temps d'écoute aussi large que possible de la société. Et on avait ici un postulat inverse de celui qu'on a ici, d'un débat moins cadré, parce qu'on n'était pas dans le cadre d'un débat, on était dans le cadre de l'émergence de la parole et il convenait donc d'écouter tout le monde. Il appartient ensuite à l'institution d'analyser, de traiter et de prendre des décisions à la fin de la façon dont elle va exploiter cette matière.
Alors, question d'Anne Fauquemberg.
Vous n'êtes pas étonné, hein, Cyril, l'âge de la tournure que prend ce débat national avec finalement un retour à un modèle plus étatique, la nomination de ministres référents, parce que finalement, l'introduction de la participation, ça vient confronter notre mode de gouvernance. Et puis, ce que vous constatez, c'est que le citoyen n'a pas sa place dans la structure politique actuelle.
Absolument. Notre constitution, nos textes définissent le rôle du gouvernement, du président de la République, du Parlement, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, etc. Mais quelle est la place prévue pour les citoyens dans la constitution, dans la fabrication de la politique publique? Aucune. Donc à partir du moment où vous voulez faire entrer un nouvel acteur, il faut définir sa place. Sa place ne peut pas être, comme je viens de le dire, simplement sur une plateforme numérique à côté dont on fait rien. Soit il est acteur, et peut-être pas décideur, acteur, mais il faut lui donner une place. Et si on veut lui donner une place, eh bien, à votre avis, que se passe-t-il? Il se passe que tous ceux qui sont déjà là contestent l'arrivée d'un nouvel entrant.
Alors demain, c'est le site internet du Grand Débat National qui va ouvrir, plateforme dans un premier temps informative, et puis il va y avoir après, dans quelques jours, l'ouverture d'un espace participatif qui est déjà utilisé par les Gilets jaunes de La Réunion et de certaines régions, notamment la région PACA. Ce sont eux qui vous ont sollicité pour organiser leurs revendications. Qu'est-ce que vous apportez par rapport à Facebook?
Alors, Facebook est un réseau social dont l'ambition, au départ, est de permettre à des gens qui se connaissent, de partager des informations, des photos, etc. On a vu une certaine évolution des réseaux sociaux, beaucoup plus ouverts, mais qui restent finalement des médias. Notre techno à nous, c'est pas du tout ça. Nous, notre objectif, c'est de fournir des instruments participatifs permettant à un décideur d'inclure sa communauté. Ça peut être un politique, mais ça peut aussi être un chef d'entreprise ou un responsable syndical, puisque ce sont les gens avec lesquels on travaille, qui vont donc, à travers ces dispositifs, inclure les citoyens, comme je le disais tout à l'heure, en définissant sa place dans le processus de décision. Chez Facebook, il n'y a pas de processus de décision, il n'y a pas de décideur. Nous, notre plateforme, elle est utilisée par un ministre, un député, un chef d'entreprise, qui, dans le cadre d'une perspective d'une décision, va associer les citoyens dans sa réflexion.
Et quelles garanties vous apportez aux citoyens en matière, par exemple, de protection de leurs données?
Alors, nous, on a fait un choix chez Cap Collectif de baser notre modèle économique sur la commercialisation de l'outil et du conseil qu'on apporte à nos clients. Donc, quand on signe un contrat avec un client, nous, on lui reconnaît la propriété exclusive des données. Donc, à l'inverse, on s'interdit toute forme d'exploitation des données. Et en qualité de prestataire, on a un devoir de conseil au titre du RGPD, la politique de protection des données. Et la politique qui est publiée sur chacun de nos sites précise aux citoyens qui vont s'inscrire, les données qui vont être collectées et l'usage qui va en être fait. Donc, ce qui veut donc dire que dans le cadre de ce débat, par exemple, l'usage sera celui de l'analyse pour prendre des décisions. Toute forme d'exploitation autre est complètement interdite.
Est-ce que vous comptez expliquer aux citoyens le fonctionnement du logiciel que vous utilisez? C'est un débat au sein du champ des civic tech, des technologies civiques, technologies dans lesquelles vous évoluez. Un champ qui se développe depuis quelques années en France via des start-up comme la vôtre, hein, mais aussi des associations de citoyens. On pense à Regard Citoyen, une association historique dans ce champ. Écoutez la mise en garde de Benjamin Hogue-Tabanou.
On ne peut pas aider la démocratie si on rajoute plus d'opacité sur le fonctionnement de la démocratie. Donc, pour ça, il est essentiel que ces logiciels reposent sur des recettes ouvertes, des logiciels libres, des logiciels open source, dont on puisse savoir concrètement ce qui se passe derrière le programme pour s'assurer que quand quelqu'un va voter ou quelqu'un va poster un message, il ne soit pas favorisé par rapport à un autre, par exemple.
Alors, votre plateforme, hein, Cyril Lage, c'est une plateforme propriétaire, hein, c'est pas une plateforme en logiciel ouvert, en open source. Est-ce que pour ce débat national qui engage toute la nation, finalement, il n'y a pas un effort à faire sur ce code source?
Alors, on a fait le choix de ne pas ouvrir le code source de notre outil pour empêcher nos clients de le modifier. Vous n'avez pas idée du nombre de pressions qu'on subit de nos clients qui viennent nous chercher pour détricoter l'usage de la plateforme. On a inventé un truc qui s'appelle la corbeille ouverte. On est les seuls à avoir ça. Quand un contenu est publié sur la plateforme et qu'un de nos clients veut le modérer, c'est-à-dire le supprimer, il va dans une corbeille qui reste accessible et visible par tout le monde. Le fait que mon logiciel soit propriétaire fait que, quelle que soit la pression, je refuse et je refuserai toujours d'enlever cet élément. Si mon logiciel était open source, mon client pourrait me dire « Eh ben écoute, je vais prendre un informaticien et je vais l'enlever moi-même. » Donc les choses ne sont pas si simples et je voudrais aussi quand même préciser que ce qui fait l'intégrité d'un processus, ce n'est pas le code source, mais c'est la donnée, et l'intégralité des données des débats sont systématiquement publiées en open data. Donc on a un jeu de données qui est l'extraction de la base de données et tout le monde peut vérifier ce qu'il a écrit sur la plateforme et ce qui est contenu dans le jeu de données.
Et on terminera là-dessus. Merci Cyril Lage,
merci,
je le rappelle, prestataire donc en charge de mettre en place la plateforme numérique de ce grand débat national, d'avoir été en direct avec nous. Et merci Anne Fauquemberg. En atterrissant ce matin en Italie, celui qui, dans son ouvrage Machiavel, disait avoir été réduit au silence des ombres et expliquait vouloir écrire pour ne pas se perdre dans le brouillard des journées interminables, c'est a priori à quoi il devra désormais s'attendre Cesare Battisti, l'ex-activiste d'extrême gauche italien condamné dans son pays pour 4 homicides et complicité de meurtre dans les années 70, meurtre dont il s'est toujours dit innocent, devrait y purger une peine de réclusion à perpétuité. Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Rome. Cesare Battisti a donc atterri ce matin après son expulsion hier de Bolivie. Et c'est la première fois, Mathilde, qu'il foulait le sol italien après 37 années de cavale.
Oui, absolument, des images historiques. À 11h30 ce matin, un tout petit peu plus tard, l'avion ramenant Cesare Battisti dans son pays d'origine a atterri à l'aéroport de Ciampino. Il en est descendu, escorté par une dizaine de policiers. L'air apparemment tranquille, Battisti regardant droit devant lui, un demi-sourire aux lèvres, le teint hâlé, la barbichette, mais sans menottes au poignet. Il n'a pas opposé la moindre résistance depuis son arrestation. Cesare Battisti, 64 ans aujourd'hui, a ensuite été accompagné vers un espace réservé de l'aéroport militaire. Des dizaines de caméras, vous l'imaginez, ont filmé ses premiers pas sur le sol italien. C'est une image furtive, mais une image, oui, historique. Il n'avait pas foulé le sol de son pays depuis 37 ans, vous l'avez dit, depuis son évasion de prison.
Alors comment les Italiens, Mathilde, ont-ils accueilli la nouvelle du retour de Battisti ?
Eh bien, la satisfaction est unanime en Italie, où Battisti est l'un des symboles, d'un des épisodes les plus violents de l'histoire italienne, les années de plomb, les années 70, les attentats, les violences de part et d'autre. Battisti doit payer pour le sang qu'il a fait couler, c'est ce que pensent les Italiens. C'est un consensus puissant et sans faille que leur compatriote n'a certes pas brisé par son comportement. Il n'exprime pas de remords sur son passé.
Dernière question, Mathilde, à quoi doit-il s'attendre à présent ?
Eh bien, la prison, pas d'alternative. Il a été condamné à la perpétuité par contumace. Battisti, il doit purger cette peine sans repasser par un nouveau tribunal qui le rejugerait. La peine est définitive. Se posera la question d'un éventuel aménagement de peine. Dans un second temps, des juges en décideront, mais pas tout de suite. Cesare Battisti va d'abord être incarcéré à l'isolement durant 6 mois dans la prison romaine de Rebibbia. Ce sont les procédures qui prévalent pour les condamner pour terrorisme. Et c'est le cas de Cesare Battisti.
Merci Mathilde Imberti en direct de Rome. Un mois et demi de la date prévue du Brexit et surtout à la veille du vote à la Chambre des communes sur le traité de retrait négocié avec Bruxelles, un blocage du projet d'accord par les députés britanniques apparaît plus probable que jamais, davantage même que l'hypothèse d'un retrait sans accord. Et c'est bien d'ailleurs ce que compte rappeler aujourd'hui Theresa May, hier déjà dans les colonnes du tabloïd eurosceptique Sunday Express. La Première Ministre a demandé aux représentants de la Chambre des communes de ne pas décevoir les électeurs ayant voté en faveur de la sortie de l'UE, avant de préciser les termes de l'alternative. Si demain le traité venait à être recalé, le Royaume-Uni risquerait selon elle soit de quitter l'UE sans accord, synonyme de rupture brutale, redoutée par les milieux économiques, soit de ne pas quitter du tout le bloc européen. La Suède aura-t-elle bientôt son gouvernement ? 4 mois après des élections marquées par une percée de l'extrême droite, désormais en position d'arbitre, il semble que le parti libéral de centre-droit ait décidé hier de soutenir le Premier ministre sortant, un soutien qui, le cas échéant, porterait donc à 4 le nombre de partis politiques prêts à constituer une coalition capable d'obtenir une majorité absolue. Les libéraux, donc, le parti du centre, le parti social-démocrate et les Verts, quoi qu'il en soit. Le temps presse, puisque si le Parlement ne parvenait pas à élire un nouveau Premier ministre avant le 20 23 janvier, de nouvelles élections devront être organisées. C'est désormais officiel, la Macédoine a changé sa constitution pour devenir la République de Macédoine du Nord, une décision prise pour mettre fin à des décennies de conflits avec la Grèce et débloquer notamment la voie vers une adhésion du petit pays balkanique aux Nations Unies, à l'OTAN, de même qu'à l'UE. Reste que ce changement doit à présent être approuvé par le Parlement grec. Or, le vote attendu mercredi a créé une véritable onde de choc dans le gouvernement d'Alexis Tsipras, acculé à demander la confiance du Parlement face à l'éclatement de sa coalition gouvernementale, ou dit autrement, le vote de cette semaine pourrait précipiter la convocation des prochaines législatives. Jean-Yves Le Drian est arrivé aujourd'hui pour deux jours en Irak, près d'un mois après l'annonce par Donald Trump d'un retrait américain de Syrie. La France entend par là afficher son soutien aux Irakiens et notamment faire passer le message qu'elle n'abandonnera pas la guerre contre le groupe État islamique, car Jean-Yves Le Drian l'affirme et l'a répété donc encore ce matin, Daesh n'est pas vaincu.
La France est présente en Irak, la coalition aussi. La coalition se réunira à Washington au mois de février pour décider de la suite de son action. Donc pour l'instant, nous sommes là et nous restons. Il y a d'abord l'accompagnement de l'Irak dans la reconquête de sa souveraineté, y compris de sa propre sécurité militaire. Et sur cette orientation-là, nous avons des militaires qui assurent la formation des unités d'élite irakiennes. Et puis il y a le deuxième sujet, qui est la situation en Syrie. Et là, nous pensons indispensable que le processus politique puisse se poursuivre. Et la France agit auprès de l'ensemble des acteurs de la région pour aboutir à ce que le processus de paix puisse se mettre en œuvre. Et le processus de paix, il est simple. Ça veut dire d'abord modification de la Constitution, nous n'y sommes pas. Ça veut dire ensuite un processus électoral. Ça veut dire ensuite la reconnaissance que les réfugiés et les déplacés qui sont nombreux en Syrie puissent avoir le droit de vote et que les élections se passent de manière transparente. Et ça veut dire parallèlement le développement de l'aide humanitaire et le début de la reconstruction. Nous sommes dans cette logique qui doit être partagée par l'ensemble des acteurs. Nous poussons pour que ce processus de paix sous l'égide des Nations Unies puisse aboutir rapidement. Mais la question principale, c'est le processus politique en Syrie.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il répondait à Franck Madvon. De son côté, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo effectue lui une tournée au Moyen-Orient, une visite destinée à rassurer ses alliés, alors que la tension est encore montée d'un cran ce week-end entre les États-Unis d'un côté et la Turquie de l'autre. Au sujet du sort des Kurdes de Syrie, hier, le président américain a menacé sur Twitter de dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes. La réponse d'Ankara ne s'est pas fait attendre. La Turquie attend des États-Unis qu'ils honorent leur partenariat stratégique et ne veut pas qu'il soit occulté par de la propagande terroriste, a déclaré ce matin le porte-parole du président Erdogan. C'était le 14 janvier 2011, après 4 semaines de protestation, le président Ben Ali, en poste depuis 1987, quittait la Tunisie pour se réfugier en Arabie Saoudite et c'est ainsi que chaque année depuis maintenant 8 ans que le pays a ouvert une nouvelle page de son histoire. On y fête la révolution de Jasmin. Alors, où en est-on de cette révolution? Qu'a-t-elle apporté? Quels sont ses manques? Éléments de réponse là où tout a commencé avec le reportage dans l'Ouest, donc tunisien, de notre envoyé spécial Nathanaël Charbonnier.
À Sidi Bouzid, la révolution porte un nom, mais elle a surtout un visage. En plein centre-ville, à l'endroit où tout a commencé, trône le visage du jeune Mohamed Bouazizi qui s'était immolé par désespoir. Son portrait est accroché sur le mur de la poste. Mais voilà, 8 ans après, la jeunesse de la ville ne lui voue pas de culte particulier. Ce vendeur de puces de téléphone se moque bien de la révolution et de la liberté d'expression. Son souci à lui est tout autre.
Est-ce que j'en ai à faire, moi, de la liberté? Mais moi, en prison, ils donnent moi de l'argent. Est-ce que la liberté va me donner de l'argent? Est-ce qu'elle va me donner à manger?
Du flouze, de l'argent, plutôt que la liberté d'expression. Les temps ont changé, mais pas la situation économique. Sur le marché, on se plaint aussi d'être les oubliés de la révolution.
Non, c'est pas ça, mais c'est qu'on n'a pas valorisé ce qui s'est passé après la révolution. C'est que personne ne travaille, on n'a pas récolté les fruits de la révolution.
Il est quand même fier d'habiter Sidi Bouzid.
Il est fier d'être à Sidi Bouzid, mais ceux qui devraient réparer la situation, ils ne sont pas là.
Alors la situation n'est que dramatique, non, répond le gouverneur de la région de Sidi Bouzid. Les pouvoirs publics ont investi sans compter. Eau, route, électricité, près de 1900 projets ont été lancés, mais voilà, le secteur privé, lui, ne joue pas le jeu. Anis Befala, gouverneur.
L'État vraiment a beaucoup investi à Sidi Bouzid, mais seulement l'inconvénient, c'est que ces projets n'ont pas eu l'impact souhaité. Tout simplement parce que pour créer le développement, il faut que les 2/3 en matière d'investissement soit privé, le un tiers public. Ce qui s'est passé à Sidi Bouzid, c'est l'inverse.
Et pour ceux qui en douteraient encore, Nasri Bouderbala, médecin et membre de la Ligue de défense des droits de l'homme, qui a reçu le prix Nobel en 2015, explique que même fragile, oui, la révolution a réussi.
Elle est acquise et fragile. Elle est acquise parce que il y a une société civile un peu combattante qui guette toute tentative de recul. Et elle est fragile parce que les institutions ne sont pas encore achevées, rien n'est encore acquis.
Alors certes, la révolution a réussi, mais reste maintenant à la démocratie naissante tunisienne de ne pas oublier le peuple qui l'a fait vivre.
Un reportage dans l'ouest de la Tunisie signé Nathanaël Charbonnier. On termine avec un mot de météo. Le retour du soleil de la Bretagne jusqu'au pays de la Loire ainsi que sur les régions méditerranéennes. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.